France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, seconde partie de notre grand entretien commencé la semaine dernière avec Jean-Jacques Debout. Après avoir évoqué ses aînés, Trainé, Beco, Jacqueline François, nous parlerons des spectacles avec Zizi Jeanmer au Casino de Paris, avec Mariti et Gilbert Carpentier à la télévision, avec Chantal Goya, bien sûr, dont les refrains ont marqué des générations d'enfants. Nous parlerons aussi de Barbara, d'Alida et des amis si nombreux qui ont fait de la vie de Jean-Jacques Debout un roman, à retrouver dans quelques instants, le temps d'un petit refrain conçu pour vous rendre heureux.
De bien des principes, j'ai fait fi, car je n'en ai qu'un qui me suffit, c'est de ne faire aux autres que ce que je voudrais que l'on me fît. Pour connaître un bonheur quotidien, il est peut-être plus d'un moyen, pourtant je ne crois pas qu'il en soit de meilleur que le mien. Pour être heureux, comme je veux être heureux, nous devons être heureux, tous les deux. Ma bonne humeur comme un soleil joyeux, je veux la voir briller dans vos yeux. Pourquoi ne pas vous donner du bonheur? C'est mon plaisir le meilleur. Pour être heureux comme je veux être heureux, nous devons être heureux tous les deux.
Personne jamais ne m'a prouvé, avec des mots aussi bien trouvés, tant de sympathie et de bonté, en vérité je crois rêver. J'ai prouvé le bonheur le plus doux, mais ce qui me rend fière entre nous, ce bonheur si doux, c'est de savoir que je l'ai grâce à vous. Pour être heureux comme on doit être heureux, nous devons être heureux tous les deux. Ma bonne humeur comme un soleil joyeux, je veux la voir dans vos yeux. Si je dois faire s'envoler vos soucis, les miens s'envolent aussi. Pour être heureux comme on doit être heureux, nous devons être heureux tous les deux.
Pour être heureux comme on doit être heureux, nous devons être heureux tous les deux. Un bonne humeur comme un soleil, je veux la voir briller dans vos yeux. Si je dois faire s'envoler vos soucis, les miens s'envolent aussi. Pour être heureux comme on doit être heureux, nous devons être heureux tous les deux.
Ah, c'est joli l'amour quand c'est chanté comme ça. Vous avez reconnu d'ailleurs sûrement la voix de Liliane Berton qu'on avait déjà entendue samedi dernier, ici en duo avec Duvalex dans une comédie musicale qui a eu beaucoup de succès, y compris dans cette version française. Nono Nanette de Vincent Humans, enregistrée ici sous la direction de Paul Bonneau.
Thank you.
galop de la boutique Fantasque, vous savez, ce ballet qui fut composé pour les thèmes par Rossini et orchestré beaucoup plus tard par Ottorino Respighi, un très joli ballet enregistré ici par le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction d'Antal Dorati.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, car je sais que vous êtes impatients, nous allons retrouver mon invité. Nous l'avions laissé la semaine dernière à l'aube des 70s, après ses débuts, ses grands parrains, Charles Trenet, Chevalier et autres. Et puis, nous avions évoqué sa période yéyé, son mariage avec Chantal Goya. Nous le retrouvons aujourd'hui pour évoquer plus spécialement tous les beaux spectacles de théâtre et de télévision auxquels il a contribué. Rendez-vous donc pour la deuxième partie de mon entretien avec Jean-Jacques Debout.
Paris qui défile aujourd'hui devant moi me rappelle ainsi les balades en moto avec toi. Quand tu me serrais dans tes bras jusqu'au bout de ta rue et que l'on s'embrassait ému devant les passants inconnus. Les rues de Paris qui défilent au hasard de leur nom gardent le secret bien fragile de nos jeunes prénoms. Les rues de Paris, des lycées, des premiers rendez-vous. Je vous revois comme avant et je pense à vous. Les saisons s'en vont et puis reviennent comme le temps d'un premier amour. Et j'espérais que tu te souviennes bien plus longtemps de ce premier jour. À Saint-Michel, près de la fontaine, on s'est vu de plus en plus souvent. Je te trouvais de plus en plus belle et je n'ai pas vu passer le temps. Les rues de Paris qui défilent me remettent en mémoire les grands défilés d'héros qui ont servi l'histoire. Les rues de Paris, une nuit, ont sorti leurs mouchoirs dans la chaleur d'un mois de mai, au son d'un espoir qui chantait. Les rues de Paris qui défilent ont des noms de poètes qui viennent au 14 juillet se mêler à la fête. Les rues de Paris des filles feront d'autres conquêtes où nos enfants à leur tour s'aimeront peut-être. Les rues de Paris qui défilent aujourd'hui devant moi me rappellent ainsi les balades en moto avec toi. Quand tu me serrais dans tes bras jusqu'au bout de ta rue et que l'on s'embrassait ému devant les passants inconnus. Les rues de Paris qui défilent au hasard de leur nom gardent le secret bien fragile de nos jeunes prénoms. Les rues de Paris, des lycées, des premiers rendez-vous. Je vous revois comme avant et je pense à vous.
Et je suis très heureux ce samedi encore d'être en compagnie de Jean-Jacques Debout, qui connaît bien les rues de Paris. Hein. C'était presque un, vous êtes un vrai Parisien, on peut dire.
Je suis surtout heureux d'être avec vous.
Merci.
Et dans cette maison dans laquelle j'ai chanté pour l'inauguration.
De la maison de la radio?
Oui, vedette était Jean Ferrat. C'était les grands débuts de Jean Ferrat. Il y avait Isabelle Aubray, il y avait Rissé Barrier, Et puis moi, qui chantais les boutons dorés.
Donc ouais. Vous êtes chez vous, alors là c'est parfait.
Non, je suis pas chez moi, non.
Non mais vous êtes chez vous parce qu'on va continuer de raconter un peu votre histoire musicale. D'abord, oui, cette chanson, Les rues de Paris, c'est une chanson beaucoup plus récente, de 1990,
hein, oui.
Que vous aviez écrite pour un film avec Marcel Dassault.
C'est-à-dire que Marcel Dassault avait produit à nous Les Petites Anglaises,
oui.
Qui avait très bien marché.
Oui.
Et puis il a produit après un film qui s'appelait Le Temps des Vacances, avec Eleanor Clarwen, qui était très mignonne et qui était formidable. Et il m'avait demandé de faire la musique de son film. Et comme ça se passait sur une moto, bah, j'avais raconté son histoire de ce couple sur la moto qui s'aime. Et c'est pour
et
ça
qui se balade dans Paris.
Et qui se balade dans les rues de Paris.
Dans les rues de Paris, avec des jolis arrangements de Jean-Daniel Mercier,
oui.
Qui est un de vos là, amis.
Oui,
qui était un de vos amis.
Mais que j'adorais, qui a été l'orchestrateur de tous les albums de Chantal, de tous mes spectacles.
Voilà. Alors je trouvais ça bien de commencer par une chanson de cinéma, Jean-Jacques Debout, parce que la semaine dernière, on a évoqué votre enfance, vos débuts chez Raoul Breton, vos succès de chanteur, d'auteur, de compositeur, l'époque yéyé avec Johnny et Sylvie. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on mette un peu plus l'accent sur tous les spectacles auxquels vous avez contribué, que ce soit le cinéma, la télévision, les comédies musicales, les spectacles de Chantal Goya, etc. Vous êtes aussi un créateur de spectacles, c'est une part importante de votre vie. Hein.
Mais tout ça, ça vient de ma petite enfance. Chez ma grand-mère, je m'excuse de parler encore de la rue du Croissant, comme j'allais passer mes après-midi à l'ABC...
Oui.
L'ABC, c'était l'endroit où on créait les opérettes. C'est là où j'ai vu Annie Cordy démarrer carrément
dans
la fameuse opérette La Route Fleurie avec Georges Guettari. J'étais devenu ami avec Bourvil. Je connaissais la gardienne du théâtre. J'allais voir Annie Cordy pour lui faire signer presque tous les jours un nouveau programme. Et un jour, elle m'a dit, mais quel âge tu as, toi? Alors, je lui dis, j'ai 8 ans. À 8 ans, tu viens voir les opérettes, comme ça, l'après-midi. Mais elle me dit, un jour, tu seras artiste. C'est moi qui te le dis. Tu te souviendras de ce que je te dis. Et un jour, je l'ai revu, forcément. On s'est retrouvé un jour sur un plateau de télé. Je lui ai raconté l'histoire. Et elle m'a dit qu'elle s'en souvenait très bien.
Et alors, parmi les spectacles musicaux que vous avez, en l'occurrence, composés pour la musique, Jean-Jacques Debout, parmi les premiers, il y en a un en 1970 qui s'appelait La Grande Vie, avec une équipe formidable, puisque c'était Roland Petit, Zizi Jeanmaire, Roger Dumas et vous-même pour les chansons, et puis aussi Yves Saint-Laurent
qui faisait les costumes et certains décors, et il y avait aussi le grand décorateur RT qui a fait des décors pour Isadora Duncan à Broadway, et il y avait aussi Guy Pellaert. Et puis César qui avait fait un très beau décor aussi.
Et cette revue de Roland Petit, c'était un...
Elle est restée 2 ans et demi à l'affiche. Oui.
Comment est-ce que Roland Petit vous avait demandé la musique ?
Eh bien voilà, c'est que Pierre Berger était ami avec Sylvie Vartan. Il avait rencontré Sylvie Vartan, je ne sais pas où, j'étais pas là, dans un dîner. Et elle lui avait fait entendre Comme un garçon avant que le disque ne sorte. Et il a aimé tellement que... Le lendemain, il a vu Roland Petit, il lui a dit « Prends un garçon moderne, j'ai entendu une chanson qui pourrait être une chanson de revue qui s'appelle Comme un garçon et je vais appeler Sylvie Vartan ». C'est comme ça qu'ils m'ont aiguillé sur Roland Petit et que Roland Petit m'a confié toutes les chansons de la revue.
Voilà, et La Grande Vie, on l'écoute.
Et j'avais pris comme chef d'orchestre Vanier.
Jean-Claude Vanier.
Jean-Claude Vanier.
Et on écoute donc La Grande Vie chantée par Zizi Jeanmaire.
Enfin cette fois, c'est bien vrai, je suis là. Comme dans un rêve, et j'ai le cœur qui bat. J'ai fait tant de tours pour arriver ici, et tant de détours, j'en suis tout éblouie. C'est bon de savoir que l'on est éveillé. C'est bon de savoir que l'on n'a pas rêvé. J'ai tant attendu que vienne enfin ce jour, car j'avais ici un rendez-vous d'amour. La grande vie, à mon avis, c'est la vie que l'on vit lorsque l'on s'aime.
T'aime.
La grande vie, moi je m'en fous des fourrures, des bijoux, pourvu qu'on m'aime.
T'aime.
La grande vie, c'est presque rien, une main sur une main qui se referme. Deux yeux pour deux autres yeux, et puis tout le reste à deux, c'est merveilleux. La grande vie, oh non, merci, la vie sans vis-à-vis, c'est pas la peine. vie pour nous chérie, elle coule à l'infini comme la Seine. Car nous deux c'est merveilleux, dans un seul rêve à deux on se promène.
Elle.
Si je suis ton vis-à-vis, tu es mon vis-à-vis, c'est la grande vie. La grande vie à mon avis, c'est la vie que l'on vit lorsque l'on s'aime. La grande vie, moi je m'en fous, très riche ou pas du tout, pourvu qu'on m'aime. Il y a des gens qui courent tout le temps l'amour, ils n'ont pas le temps, ils se démènent.
Aime.
Moi je prends le temps d'avoir le temps de me donner du bon temps, c'est plus marrant. La grande vie, ah non merci, la vie sans vis-à-vis, c'est pas la peine. Profitez de l'occasion. Les filles et les garçons ne sont pas les mêmes. Ce qu'on n'a pas, c'est eux qui l'ont. C'est pour ça que c'est si bon et qu'on les aime.
Aime.
Et y'a que ça de vrai, moi je vous le dis. La vie en vis-à-vis, c'est la grande vie. La grande vie, ah bon, la vie, c'est la vie que l'on vit lorsque l'on s'aime.
Aime.
Et y'a que ça de vrai, moi je vous le dis. La vie en vis-à-vis.
C'est la première fois que vous écrivez des chansons pour une revue.
Ah oui, pour un spectacle même, c'est la première fois. Je dois dire que ça m'a passionné et je suis prêt tout de suite à retravailler pour Alain Petit et Zizi parce que ce sont vraiment deux grands artistes qui vous dopent pendant le travail et qui...
Il nous a fait souffrir, oui.
Oui, il nous a fait, Roland nous a fait souffrir. Mais il avait raison de nous faire souffrir.
Ah oui,
parce
moi,
que
je souffrir comme ça.
Le résultat.
Ils ont été formidables. Ils ont recommencé quelques chansons, quelques fois, quatre fois, comme ça. Il y avait une chanson qui arrivait. Puis alors, moi, je disais non, moi, je ne sens pas comme ça. Ils disaient non, peut-être tu as raison, on ne sent pas comme ça. Bon, alors, ils faisaient une seconde version. C'est arrivé une fois, c'est une seconde, une troisième, et à quatrième. À quatrième, on dit je crois que la première était meilleure.
Première. Voilà,
oh là là,
Zizi Jeanvert,
c'est très émouvant
Roland Petit.
Entendre la voix de Roland Petit.
Voilà, à l'occasion donc de
il
la
m'a
création
beaucoup, tu sais,
de ce spectacle au Casino de Paris en 1970.
Ouais.
Il faut préciser, c'est intéressant pour l'histoire du musical, hein, Jean-Jacques Debout, que en fait Roland Petit, après la mort d'Henri Varnat, le
c'est
grand
ça.
Directeur historique, avait repris le Casino de Paris.
Voilà, c'est-à-dire que Varnat avait un héritier qui avait hérité donc du Casino de Paris. Il avait aussi Mogador,
c'est ça.
Il avait le Palace et les Bouffes du Nord.
Et alors dans cette interview qu'on vient d'entendre, il y a aussi, là on l'entend moins mais il parle plus longuement à d'autres moments, Roger Dumas, dont je voudrais qu'on dise un mot parce qu'il a été votre partenaire dans beaucoup de chansons, souvent
oui.
Il faisait les paroles, vous faisiez les musiques,
oui,
c'était un ami proche. Hein,
c'était un ami
un
très, très proche,
également.
C'était un acteur formidable. Et puis,
vous étiez connu comment avec
ben, très simplement, quand j'avais 15 ans, j'allais au cours Simon. Et puis Roger Dumas venait aussi au cours du lundi soir revoir René Simon qui avait été son professeur. Parce que là, il commençait déjà à être très connu. Là.
Oui.
Il jouait au théâtre, il jouait beaucoup. Et puis je lui ai présenté Marie-Josée Nade, dont il est tombé amoureux et ils se sont mariés. Et il avait ses parents qui avaient une boulangerie à Senlis, et on allait passer tous nos week-ends dans le grenier de la boulangerie, et on dormait tous dans le même lit avec Marie-Josée, avec tout ça, et on se racontait nos peines, nos joies, on se racontait tous nos projets, et Roger était comme mon frère, c'était comme un frère, oui, beaucoup,
hein,
beaucoup,
ouais,
hein. Et surtout pendant les numéros 1, parce qu'à l'époque, Mariti et Gilbert me demandaient à peu près 16 chansons par semaine. Et alors, des fois, tout seul, très franchement, il me fallait un auteur. Je ne pouvais pas écrire 16 chansons tout seul, tout le temps.
Voilà, parce que vous aviez quand même l'habitude d'écrire à la fois les paroles et la musique.
Et puis Roger a écrit des très très belles choses aussi pour les spectacles de Chantal.
Avant d'en venir justement à ces spectacles de télévision avec Mariti et Gilbert Carpentier, il y a une autre création dont je voudrais que vous nous disiez un mot, Jean-Jacques Debout, même si ça a été un moins grand succès, on peut dire, ça a été W au Châtelet en 1971.
Ouais.
Alors ça a été une aventure un peu compliquée. Hein.
Luis Mariano était décédé et Madame Lamy, qui en était la directrice du Châtelet, s'est retrouvée tout d'un coup n'ayant plus de spectacle. Et comme moi, je venais de terminer la revue donc pour Roland Petit, qui était resté 2 ans et demi à l'affiche,
oui.
Qui était une chose quand même assez rare. Madame Lamy m'avait contacté et elle m'avait fait joindre, et elle m'avait demandé de passer la voir à son bureau. Et alors j'avais été la voir, et elle m'a dit, écoutez, j'ai pensé à un moment que Luis Mariano allait se rétablir, j'ai pensé que sa santé allait s'améliorer, mais c'est malheureusement pas le cas. Est-ce que vous auriez une idée pour un spectacle? Car je me retrouve sans spectacle, et c'est insupportable de voir un théâtre comme le Châtelet fermé. Alors, j'ai réuni des artistes que je connaissais, des copains à moi qui chantaient dans les numéros 1, partout où j'ai pu en trouver aussi. Il y en avait que j'avais trouvé aussi au Casino de Paris. Et puis, il a fallu écrire très vite. J'ai écrit une comédie musicale qui s'appelait W et qui est restée quand même 4 mois à l'affiche.
Et donc, c'est resté 4 mois à l'affiche, mais ça a été une expérience, malgré tout,
très dure.
Financièrement, très compliquée.
Très compliquée. Mais il en est resté quelque chose, parce que tous les comédiens qui chantaient dedans... Finalement, Michel Fugain est venu le soir de la dernière, il les a engagés et c'est devenu le Big Bazar.
Ah bon ?
Oui, alors, donc ça a quand même servi à Fugain.
Vous êtes à l'origine du Big Bazar.
Oh, l'origine ! Oui, enfin, je ne l'avais pas fait exprès. Mais Michel a eu le bon goût de leur faire confiance, puisque vous connaissez le succès qu'a eu le Big Bazar.
Voilà. Et alors, justement, donc, on va maintenant changer un petit peu de couleur, parce que ce temps-là, c'est aussi le temps du plein développement du musical à la télévision. Et là, vous en avez été un des acteurs les plus importants, avec Mariti, Gilbert Carpentier et les émissions numéro 1. On va vous retrouver d'ailleurs, avant d'en parler tout de suite, dans une de ces émissions, c'est en 1975, « Si on allait tous les deux au cinéma ».
Tes devoirs une autre fois. Un garçon, ça doit écouter son père, mais il ne faut pas le dire à ta mère. Si on allait tous les deux au cinéma, pour une fois que j'ai du temps devant moi, ensemble on ira voir Gary Cooper, à moins que tu préfères un film d'horreur. Dis-moi si tu veux voir Charlie Chaplin ou tomber amoureux de Marilyn, rêver tout éveillé au dessin animé du monde enchanté de Walt Disney. Si on allait tous les deux au cinéma, tu finiras tes devoirs une autre fois. Au studio Alpha, il y a Fred Astaire. Surtout ne va pas le dire à ta mère. Si on allait tous les deux au cinéma, en marchant sur les boulevards, on choisira. Au Royal Madeleine, il y a Marlène. Au ciné Calypso, il y a Belmondo. En rentrant à la maison, n'en parlons pas. Il faut garder ça entre toi et moi. Si tu veux que l'on retourne au cinéma, si tu veux que l'on retourne au cinéma, si tu veux que l'on retourne au cinéma.
Jean-Jacques Debout en 1975, si on allait tous les deux au cinéma, arrangement de Pierre Porte.
Oui, hein, Pierre Porte.
Très joli oui. Objet c'est musical.
C'est un musicien formidable, Pierre
voilà.
Porte.
Et Jean-Jacques Debout, alors je voudrais que vous nous disiez, parce que ça c'est vraiment très important, comment est-ce que vous êtes devenu un des piliers de cette émission qui était le grand musical de la télévision, l'émission de Mariti et Gilbert Carpentier, numéro 1.
Comme j'ai commencé assez jeune dans la chanson, puisque j'avais 17 ans quand j'ai commencé, j'ai fait un concours, à l'époque c'était encore Radio Luxembourg, ouais. j'ai participé à un concours qui s'appelait les prodiges de bière.
La boisson bière.
La boisson bière. Ouais. Et j'ai gagné ce concours. Et les organisateurs de ce concours étaient Maritier et Gilbert Carpentier, qui étaient à l'époque producteurs à Radio Luxembourg.
Voilà.
Et ils m'ont donc connu, oui, j'avais 17 ans.
Ils ont toujours travaillé ensemble, c'était un couple donc.
Oui, qui travaillaient ensemble.
Qui travaillaient ensemble.
Et à Radio Luxembourg, ils écrivaient des émissions qui étaient très connues, qui s'appelaient Le Passe-temps des Dames et des Demoiselles, qui étaient animées par André Claveau.
Ah oui.
Ils écrivaient aussi d'autres émissions. Ils faisaient Super Boom, une émission qui s'appelait Super Boom, où beaucoup de vedettes venaient chanter au Théâtre de l'Étoile. Et puis, ils m'ont pris sous leur aile.
Avant même donc d'être à la télévision.
Quand j'ai gagné donc ce concours Les Prodiges de Bire, après ils m'ont demandé de venir chanter et puis très peu de temps après, ben il y a eu le succès des Boutons Dorés, donc ils m'ont invité aussi dans les Super Boom et puis quand il y a eu les Sacha Show, ils étaient producteurs des fameux Sacha Show avec Sacha Distel et comme j'étais un vieux copain de Sacha. Il me mettait aussi dans les Sacha Show avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault et Sacha Distel.
Mais à un moment donné, donc, dans les années 70, ils vous ont vraiment demandé de travailler régulièrement leur émission
alors,
télévision.
Quand les numéros 1 sont arrivés, Mariti m'a demandé de passer la voir devant le jardin du Luxembourg où elle habitait et où on se réunissait tout le temps pour préparer les émissions. Et là, elle m'a dit, ben voilà, Pierre Sabag vient de nous confier pour un an des émissions de samedi soir en prime time, comme on dit. À l'époque, on disait pas comme ça, mais maintenant on dit comme ça.
À l'heure de grande écoute, par exemple.
Et est-ce que tu aurais une idée? Et j'étais venu les voir avec Carlos, qui est mon vieux copain.
Ouais.
Et je leur ai dit, si on faisait une émission avec Carlos et Brigitte Bardot.
Ah bon, pourquoi pas?
Oui, bah parce que j'avais passé à Saint-Tropez des vacances avec Carlos et on allait le soir à la Madrague faire un peu la fête chez Brigitte et Sacha. C'était l'époque où elle sortait avec Sacha Distel. Et alors, on sortait un peu de ces années-là, quoi. Et puis, Mariti me dit, écoute, c'est une bonne idée. Et ben, appelle-la parce que moi, je la connais pas assez bien, mais tu peux l'appeler. Je l'avais appelée, elle avait été adorable et elle avait dit, d'accord, montrez-moi les chansons un peu à l'avance et tout. Et puis, c'est trouvé qu'elle a eu un problème à la gorge. Et c'est comme ça qu'au pied levé, Chantal l'a remplacée avec la fameuse chanson Adieu les jolis foulards.
Adieu les jolis foulards. Voilà. Mais alors, donc, finalement, au fil des semaines, vous êtes devenu un pilier de l'émission pour laquelle il fallait écrire tout le temps des chansons, en fait.
J'écrivais entre 15 et 16 chansons par semaine.
Par
et
semaine
ça, oui, mais ça a duré 11 ans. C'est pour ça que j'ai 1200 chansons à la SACEM.
Ah oui.
Alors les gens se disent, mais comment il peut avoir un nombre comme ça? Mais c'est parce que pendant 11 ans, j'ai fait 16 chansons par semaine.
Donc c'était des chansons écrites sur mesure pour les artistes qui venaient dans l'émission.
Ah bah, hein, j'écrivais, voilà. Oui, on écrivait. Et c'est là où avec Roger, on a travaillé beaucoup.
Voilà.
Ce qui était bien dans cette émission, c'est que ça faisait travailler des danseuses, ça faisait travailler des décorateurs, travailler des peintres, ça faisait travailler tout le monde.
Avec un pilier de la réalisation qui était André Frédéric.
Oui, qui était formidable.
Voilà.
Qui était un génie. Et voilà pourquoi, après tant d'années, dès qu'on repasse une émission sur les Carpentiers, vous avez dû remarquer que ça bat toutes les écoutes.
Ça fait un tabac.
Mais ça fait un tabac, pourquoi? Parce que c'était bien fait, c'était réussi, et c'était fait sérieusement, avec des gens de talent.
Et parmi toutes celles que vous avez écrites pour l'émission, il y a par exemple Dalida, comme disait la Mistinguette.
Eh oui, c'est né là.
Cléopâtre, Ménilmontant, au cave du Var, Ticon. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça.
Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça.
On dit que c'est mon frère qui chante quand je suis en vacances.
Pas vrai, pas vrai.
Je bats mes musiciens.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai que j'aime bien les beaux garçons, mais dans le fond, je préfère les chansons. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça.
Comme le disait
j'avoue, je suis comblée. Depuis que je suis née, depuis que j'ai chanté, j'ai des amours par milliers. On dit de moi que certains soirs je joue Sarah Bernhardt.
C'est vrai, c'est vrai.
On dit que mon meilleur copain c'était Yard de Chardin.
C'est vrai, c'est vrai.
Moi j'aime les ritournelles, l'intellectuel, parole, parole et le disco aussi. Comme le disait la Stinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça.
Comme le disait la Stinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça.
On dit depuis bientôt plus de 20 ans que je ne passerai pas le printemps. On peut bien dire ce qu'on voudra, je ne serai pas Dalida si je n'étais pas comme ça.
On dit que tu as l'accent qui roule, des chansons qui roulent.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai que tu es italienne de naissance égyptienne.
C'est vrai, c'est vrai.
On dit que c'est ton frère qui chante quand tu es en vacances.
Pas vrai, pas vrai. On peut bien dire ce qu'on voudra, je ne serai pas Dalida si je n'étais pas comme ça.
On peut bien dire ce qu'on voudra, je ne serai pas Dalida si je n'étais pas.
Dalida, comme disait la Mistinguette, un de ses numéros 1 de Mariti et Gilbert Carpentier, ouais, avec Jean-Jacques Debout, des émissions qui étaient faites en vrai direct.
Ah hein, oui, le samedi, on pas, dirait. Ah oui, mais ça,
c'était pas fabriqué à l'avance.
Non,
hein,
mais ça a été enregistré. C'est Jean-Claude Ric, là, qui a fait l'orchestration.
Oui, le chef d'orchestre.
Oui. Et ça a été enregistré sur le plateau. On a gardé l'enregistrement tel qu'il avait été fait en direct le samedi devant le public.
Voilà, il faut préciser que les paroles étaient de Pascal Sevran.
Alors, les paroles étaient de Pascal Sevran, qui dormait de temps en temps rue des Saints-Pères où j'habitais.
Ah oui?
Oui, parce qu'il finissait son service militaire. Il disait, oh, ça me barbe de retourner à la caserne et tout. Chantal lui disait, écoute, il y a un grand canapé dans le salon, je le transforme en lit et tu dors là, et puis il n'y a pas de problème et tout. Alors il avait un double des clés.
Ah,
et puis, oui, oui. Bon, et puis il avait toujours un petit magnétophone avec lui. Et puis ce jour-là, il me dit, tu sais, j'ai dîné hier soir avec Dalida et son frère. Et elle prépare un numéro 1 justement pour tes amis les Carpentiers. Je lui ai soumis une idée de faire un clin d'œil à Mistinguette et à sa carrière dans une chanson qui s'appellerait « Comme disait la Mistinguette ». Et alors il me dit « Mets-toi au piano ». Alors je me suis mis au piano, j'ai joué la musique que vous venez d'entendre. Et puis lui, il a mis les paroles dessus et c'est devenu cette chanson que Dalida a chanté jusqu'au bout de sa carrière.
Dans votre façon de faire la musique, Jean-Jacques Debout, c'est plutôt d'abord les paroles puis la musique ou d'abord
d'habitude,
la musique puis les paroles?
D'habitude, je fais les deux en même temps parce que quand l'idée me vient, c'est en même temps. Mais des fois, il m'est arrivé de faire de la musique sur des paroles qui étaient déjà écrites. Et puis là, on a fait la chanson en même temps.
Alors, ce qui est important aussi, Jean-Jacques Debout, c'est que dans toutes ces années-là, par rapport à ce qu'on se disait la semaine dernière, votre carrière de chanteur s'est mise un petit peu au second plan. Et il y a quelqu'un qui a joué un grand rôle dans votre retour à la chanson, dont je voudrais qu'on parle un peu, parce que vous la connaissiez depuis très longtemps, mais vous l'avez retrouvée plus tard, c'était Barbara.
Ah, j'adorais.
Ouais. Vous l'aviez vue très tôt, Barbara, à l'Écluse.
Je l'avais connue à l'Écluse,
ouais,
parce que j'étais ami avec Teddy Vrignot, ouais, qui faisait partie des Frères Ennemis,
ah
qui
oui,
est celui qui a disparu,
oui, oui,
puisqu'on ne sait toujours pas s'il est
on
en vie.
On n'a jamais su. Oui.
On n'a jamais su. Et Teddy était très lié à Barbara. Ils étaient très copains. Et un soir, il m'a emmené à l'Écluse. Il me l'a présenté. Et ça a été immédiat. On a plaisanté, on a ri. On s'est aimé tout de suite. Et alors, à l'époque, elle était amoureuse d'un homme qui vivait à Bruxelles et qui avait un petit cabaret à Bruxelles et avec qui elle s'est même mariée, je crois. Quelqu'un m'a dit qu'elle se serait mariée, mais en Belgique. Et elle a été très malheureuse avec cet homme-là. Et c'est Jacques Brel qui, voyant qu'elle était très, très malheureuse un soir, a été dans ce cabaret à Bruxelles et qui adorait Barbara, il lui a dit, écoute, demain, moi, je te ramène à Paris, tu vas quitter ce mec-là, et je te ramène à Paris, et je vais te présenter mon directeur artistique. Jacques, à l'époque, était encore chez Philips et il lui a présenté Claude de Jacques. Et c'est comme ça qu'il lui a fait faire « Dis, quand reviendras-tu » et qu'elle a repris confiance en elle parce qu'elle n'avait plus confiance en elle quand elle est partie en Belgique dans ce cabaret. Elle a souffert énormément, enfin bref.
Mais vous, à votre tour, elle vous a redonné confiance en vous. Alors, à cause
parce qu'il y avait une boîte à Paris. Au
la Palais tête de l'art.
La tête de l'art, ouais. Exactement. Ouais. Et un jour, elle me téléphone, elle me dit « Dis-moi, t'as décidé de ne plus chanter, c'est définitif ?» Elle me dit, je dis « Non, mais tu sais... Je peux pas être partout.
J'écris des chansons pour la télé.
Puis alors, puis les heures de studio, c'est par exemple quand j'écrivais beaucoup pour les Carpentiers. Par exemple, Jacqueline Maillan, quand elle venait chanter avec Jean Poiret, et il sortait du théâtre. Les séances se terminaient à 3-4 heures du matin. Alors que comment je pouvais aller faire du tour de chant, c'était pas possible.
Et donc Barbara à la tête de l'art.
Et là, elle me dit, écoute, tu vas faire ma première partie à la tête de l'art. Ça devait être Serge Reggiani, mais comme on s'est fâché, je ne le reverrai plus jamais. Moi, je croyais qu'elle reviendrait sur sa décision, qu'ils se reverraient. Ben non, ils se sont jamais revus. Et puis, tu vas prendre sa place. Et puis, je vais te prêter mes musiciens. Et puis, tu vas rechanter tes belles chansons, comme Mon Capitaine, comme toutes ces chansons que j'aime bien de toi. Et tu verras, ça va bien marcher, je vais m'occuper de toi et tout. Alors, tout d'un coup, moi... Je dis à Chantal, je dis, mais elle est folle, elle veut que je rechante et tout. Et Chantal me dit, non, elle n'est pas si folle que ça, je trouve qu'elle a raison de te faire rechanter, parce que c'est dommage que tu ne chantes plus. Et voilà comment j'ai commencé à rechanter grâce à elle, à la tête de l'art.
Alors, on va écouter
et
tout
après,
de suite.
Et après, elle m'a emmené au Canada, pendant un mois, dans une boîte à chansons, ça s'appelait Le Patriote, où j'ai chanté pendant un mois avec elle à Montréal, et c'est là que je me fais enlever à la sortie du théâtre par Jacques Mérine.
Qu'on retrouve votre copain d'enfance.
Qu'on retrouve et que je présente à Barbara, mais qui savait pas que c'était Jacques Mérine qui était recherché par toutes les polices de France. À table, il lui demande à un moment, parce qu'on avait dîné avec lui dans un restaurant, il lui a dit « Je connais de vous, dis quand reviendras-tu, vous voulez pas me la chanter ?» Alors elle le regarde et elle lui dit « Vous savez, mon cher ami, je sais que vous êtes un grand ami de Jean-Jacques, mais... sachez que je ne chante jamais à table et encore moins avec la bouche pleine. » Et là, il s'énerve et il lui dit « Ah bon, vous voulez pas chanter, vous voulez pas chanter ?» Et puis il lui met ses deux mains comme ça sur le cou. Moi, je l'ai tiré par le bras et tout, il m'a fait un clin. Et alors, Barbara prend un temps et puis elle me regarde comme ça, elle me dit « Dis-moi, t'en as pas un deuxième à me présenter comme ça ?»
voilà l'amitié Jean-Jacques Debout, Jacques Mérine. On va écouter tout de suite Barbara dans une chanson alors que vous avez écrite pour elle, parce que vous en avez écrite plusieurs, hein,
oui.
Une chanson très très musicale qui s'appelle « Hop là ».
Ah oui. Hein ? Oui, oui. Elle m'avait demandé une musique un peu musicale parce qu'elle avait envie de danser, parce que Maurice Béjart lui avait dit qu'elle bougeait très bien. C'est vrai, elle est très élégante, elle dansait. Et je lui ai fait cette musique et elle a fait les paroles « Hop là ».
Je vins au monde, je n'avais rien dans la tête. C'est drôle, j'avais tout dans les gambettes. Rue de Bagnolet, près de la rue des Pyrénées, quand je suis née. Hop là, sur un long corps, une curieuse petite tête, une longue tige, une vraie fleur de pâquerette, le pied cambré. Pas besoin d'être prophète pour deviner. Hop là, qu'à l'âge où l'on joue encore à chat perché, sur les tabourets, au bar du chat qui pêche, mes gambettes gainées de soie noire, déjà je me perchais. Hop là, je n'ai pas dansé les rondes enfantines, au bois joli sonnait les matines, à pas de loup, et déjà sans peur du loup, à 15 ans je trottinais. J'ai pas de tête, mais j'ai des jambes qui me portent, me rapportent. J'étais en pull, point virgule, je dégaine, ma dégaine. Enfant, j'avais l'âme pieuse et je rêvais d'être un jour une petite sœur du bon Dieu. Ben, je suis petite sœur d'amour. Venez à moi, venez donc mes frères, pourvu qu'on y croit. À chacun sa prière, Dieu m'a donné la foi. Et le savoir-faire qu'il soit loué. Hop là, venez à moi, venez, Dieu vous le pardonne. Ce soir, c'est Noël, dans le cœur des hommes. Quelle est jolie la messe qu'on danse à minuit au creux de son lit. Hop là, si vous êtes musicien, je sais la messe en ré. Si vous êtes général, je vous ferai le défilé. Si vous êtes poète, je vous réciterai la petite chanson de Verlaine. Si vous aimez les marins, je serai mousse, comme dit la chanson. Je vous ferai ça en douce, venez mes frères. Je ne suis pas cultivée, mais j'ai des connaissances. Rien dans la tête, tout en jambes, je trottine et mutine. Douce, douce, pas farouche, je dégaine ma dégaine. Quel beau métier, je suis petite sœur d'amour, infatigable. Je vais de nuit et de jour. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, c'est bien connu. Hop là. Et que m'importe que ce soit le pauvre ou le riche, pour moi les hommes sont égaux, je m'en fiche. Comme c'est écrit, il faut aimer son prochain, j'aime le mien. Hop là. De mon enfance, j'ai gardé l'âme pieuse, bien sûr. Je ne suis pas vraiment religieuse. Chaque jour auprès de vous, mes chers frères, j'égraine mon rosaire. Entrez mes frères, entrez, c'est l'heure où l'on prie. Ensemble nous aurons notre paradis. Ensemble nous monterons au septième ciel. Hop là, hop là, hop là, hop là.
Hop là, c'était bien sûr Barbara, mais avec quelques partenaires de choix. Hein. Michel Colombier quand même.
Oui, qui a été un de mes premiers pianistes.
C'est vrai?
Oui.
Ah oui, avant de devenir le grand chef d'orchestre
qu'on
connaît. Ah
oui. Bon, c'était un génie.
C'était un génie.
Ah oui.
Et Colombier. Puis Romanelli à l'accordéon.
Romanelli, ça, c'est un bonheur. Chaque fois que Barbara me prêtait ses musiciens, il y avait évidemment Roland. Et je dois dire que je me surpassais parce que je voulais le bluffer à chaque fois pour lui montrer que je pouvais encore essayer de chanter.
Et Marlène, qui était restée une amie depuis vos jeunes années,
vous la voyez tous les jours,
elle aimait beaucoup Barbara, vous m'avez dit
beaucoup.
Aussi, Jean-Jacques.
Alors, Marlène, j'avais une date, je devais aller chanter au Kursaal à Ostende, en première partie de Marlène.
Toujours.
Toujours.
Des années après votre premier
Olympia. Oui. Et alors, je vais voir Marlène, là, qui habitait en face du Georges V, de l'hôtel Georges V, parce que ça lui rappelait Gabin avec la petite fenêtre où elle avait habité autrefois. Et alors je lui dis, Marlène, Barbara me demande d'aller au Canada, d'aller à Montréal, de chanter pendant un mois avec elle. Vous m'en voulez pas si je me fais remplacer pour votre première partie? Elle me dit, mais non, mais par contre, ce que je vous demande, mon cher Jean-Jacques, c'est que j'aime beaucoup cette femme. J'ai acheté des disques d'elle au drugstore. Ouais. Des Champs-Élysées. Et je l'aime beaucoup, j'aime sa façon qu'elle a d'écrire. Et profitez-en pour m'écrire tous les deux une belle chanson. J'en ai parlé dans l'avion qui m'emmenait de Paris
au Canada,
à Montréal. Et Barbara m'a dit, écoute, fais d'abord la musique et puis moi je te ferai les paroles dessus. Et c'est devenu « C'est trop tard ».
Mais que malheureusement,
Marlène
n'a pas eu le temps de l'enregistrer.
Non, parce qu'il y a eu un théâtre où ils ont éteint la lumière, Marlène est tombée dans la fosse d'orchestre, elle s'est cassée le col du fémur, et les séances devaient avoir lieu chez Barclay, qui ont été annulées, et il y avait donc cette chanson. Alors Barbara l'a enregistrée, et moi aussi.
Et, alors,
et moi, je la chante dans mon tour de chant.
Vous la chantez,
que
là,
je
vous
vais
aimez
chanter,
beaucoup.
Parce que je vais chanter le 17 mai, au Théâtre de l'Atelier pour mes 80 ans.
Voilà, et on pourra entendre... Donc,
et je la chanterai.
C'est trop tard. Alors, on a passé beaucoup de chansons joyeuses, musicales, c'est l'esprit de l'émission, mais allons-y quand même pour un debout triste, un debout sombre, disons, plus sombre, plus tendu. Elle est belle, mais cruelle, 1975,
oui,
dites-moi un mot de cette chanson.
C'est un petit règlement de compte, mais qui s'est très vite arrangé.
Avec ?
C'est
Sylvie, quoi.
Oui, Sylvie m'avait rejoint à Marseille, voilà pour tout vous dire. On était à l'hôtel de Noailles, qui inaugurait une pizzeria, et qui m'avait dit, venez avec votre ami Johnny et ses musiciens pour l'inauguration de la pizzeria. Et puis, Sylvie venait de terminer la première partie de Gilbert Bécaud à Aix-en-Provence, donc elle m'avait rejoint. Et puis, moi, je les ai installés l'un à côté de l'autre. Pour le dîner dans la pizzeria. Et puis, ils sont partis tous les deux sur le Vieux-Port dans une boîte de Mémé Guérini qui s'appelait le Whisky à Gogo Moi, j'ai pris un peu la mouche, j'ai pris ma voiture, je suis rentré à Paris dans la nuit, et pendant 2 ans, je les ai plus revus. C'est après ça que je les ai retrouvés, où il y a eu comme un garçon.
Oui, mais cette chanson-là, vous l'avez écrite des années plus tard.
Oui.
Donc ça veut dire que ça vous était resté dans un coin de la tête.
Je l'avais écrite, mais je ne l'avais pas encore enregistrée, mais elle était écrite.
Ah, vous l'aviez écrite à chaud.
Et un jour, j'avais une séance à Londres, et dans un album... J'avais choisi de la mettre parce que j'aimais beaucoup l'orchestrateur Arthur Greensled, qui du reste a fait une orchestration magnifique.
Elle a usé tous les moyens qui pouvaient me faire de la peine. Moi j'ai cassé les souvenirs qui me rappelaient que je l'aime. Je ne pouvais plus supporter d'être le copain des dimanches. Le pauvre fou, le confident, l'ami des mauvaises vacances. Chante notre histoire. Elle danse sur mon cœur. Elle est belle, mais cruelle. Dès que recommence la guerre et que résonne dans sa tête, des mots bien mal interprétés par des gens souvent malhonnêtes, qui lui cachent la vérité avant l'inutile tempête. Que j'en ai le cœur déchiré tout en m'éloignant de la fête. Elle chante notre histoire. Elle est belle, mais cruelle. Parfois même, elle me tue.
Jean-Jacques Debout en 1975, donc revenons sur cette histoire déjà ancienne, mais avec une belle chanson mélancolique, colorée.
J'adore chanter cette chanson.
Un autre spectacle, évidemment, qu'on ne peut pas ne pas évoquer ici, Jean-Jacques Debout, c'est le spectacle, les spectacles de Chantal Goya pour les enfants. Et vous êtes aussi, avec Chantal, vraiment à l'origine de ces spectacles si populaires et si merveilleux. Mais ça a commencé aussi un peu avec la télévision et avec Maritier et Gilbert Carpentier.
Ah bah complètement. Hein, voilà. Oui, quand Brigitte Bardot s'est décommandée pour le show de Carlos.
Et que Chantal est venue chanter. Donc.
Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras.
Et comment est-ce qu'on arrive de ça à un grand spectacle pour les enfants ?
Eh bien, parce que la chanson a marché très très fort. Ce numéro 1 a eu beaucoup de succès. Il a été reprogrammé une seconde fois à même pas un mois d'intervalle. Et, et Cocatrix, Bruno m'a appelé avec Jean-Michel Boris. Ils m'ont dit, Jean-Jacques, vous pouvez pas nous monter pour le mercredi après-midi, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, une heure de spectacle avec votre femme qui passe magnifiquement bien à l'écran et qui a l'air de très débrouillarde et tout. Ça, on serait partant pour vous financer un petit spectacle à l'Olympia. Ça s'est appelé La Forêt Magique. Ouais. Et ça a marché tellement que là, le producteur Roland Hubert m'a contacté un an après pour me proposer le Palais des Congrès. Et c'est là où je lui ai écrit Le Soulier qui vole, ouais, qu'elle joue actuellement avec un succès fou partout.
Mais elle était tout de suite partante, Chantal, pour cette idée de me faire un spectacle pour les enfants.
Oui, ça l'amusait.
Ça l'amusait.
Je sentais même qu'elle préférait ça. Elle m'a dit, tu vois,
Parce qu'elle avait fait une carrière de chanteuse, elle aussi.
Oui. Elle m'a dit, je préfère ça que d'aller au cinéma, d'être obligée d'embrasser un comédien que je connais pas. Non, je préfère le monde des enfants. Puis on venait d'avoir des enfants qui étaient en bas âge, hein, à l'époque. Et finalement, elle faisait un peu les spectacles. Ces spectacles pour les enfants, je les faisais aussi un peu pour amuser mes enfants. Mais alors, mes enfants et leurs copains.
Je ne sais pas comment vous les écrivez, toutes ces chansons. Bon, il y a les spectacles, il y a les histoires, mais vous êtes vraiment l'auteur, compositeur de tout l'ensemble.
Oui,
hein.
Oui, j'écris le scénario.
Mais souvent, ce sont vraiment des petites danses, on dirait presque des petites polkas, des petites danses d'autrefois. C'est la musique légère, quoi. Ça vous vient tout seul, comme ça, au piano?
Oui, je me mets au piano et puis j'appelle mon chorégraphe. Ouais. À l'époque, c'était Arthur Plachart. Ouais. Et puis je disais à Arthur, je faisais ça au téléphone, hein, ouais, je lui disais, écoute, je vais faire une petite danse comme ça, et puis là, il y aura un pont sur lequel tu feras une chorégraphie, et puis Chantal reprend la chanson, et puis voilà, on travaillait comme ça.
Voilà. Et ça donne des chansons qui m'enchantent, je suis sincère.
Et ça me fait plaisir.
Tout le monde le sait ici. Et j'avais envie de profiter de l'occasion pour écouter et réécouter le duo Monsieur le Chaboté.
Écoutez l'histoire, difficile à croire, de cet homme qui n'avait rien. Un chat de misère qui a su y faire pour lui changer son destin. En chaussant des bottes, en mangeant un ogre, en peu de temps il changea. D'un coup de baguette, son malheureux maître en marquis de Carabas. Monsieur le chat botté, vous n'allez pas me griffer. J'étais venu faire un petit tour afin de vous dire bonjour. Vous êtes le chat le plus beau de cette château. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée et votre beau manteau.
Je suis le chat botté, je ne veux pas vous griffer.
Si vous défendez les enfants,
les pauvres des braves gens,
donnez-moi le bras pour danser avec moi. Monsieur le chat botté, pour faire trois petits pas.
Quelle rencontre, c'est un chat qui compte, qui miaule et qui fait ronron, qui sur la musique, sans sortir ses griffes, danse comme un rat fripon.
Prenez donc ma chère, ma patte légère,
et bien bougre d'animal. Entrons dans la danse, la fête commence,
nous allons ouvrir le bal.
Monsieur le chat botté, vous n'allez pas me griffer. Le plus beau de cet étrange château. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée, votre beau manteau.
Je suis le chat botté, je ne veux pas vous griffer.
Si vous défendez les enfants,
les pauvres et les braves gens,
donnez-moi le bras pour danser avec moi. Monsieur le chat botté, pour faire trois petits pas.
La 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 la
le chaboté.
Je peux vous assurer que je l'écoute en boucle chez moi, mes voisins le savent,
ah bah,
ça me met en transe.
Bah, tant mieux. Mais...
ouais, j'aime beaucoup, vraiment, merci Jean-Jacques Debout. Merci Chantal Goya pour cet extrait de La Planète
Merveilleuse,
oui. Un de vos nombreux spectacles. Et oui. Alors il y a quand même, non mais sans blague, cette magie de la couleur enfantine dans l'utilisation des chœurs, du rythme, etc. C'est aussi le travail de votre ami Jean-Daniel Mercier.
Ben, oui, je vivais autant chez lui qu'il vivait à la maison.
Ah oui.
Parce que... il m'a suivi pendant toute la grande époque des spectacles, ouais. Et je lui confiais tout.
Vous l'aviez connu chez Vogue, hein.
J'avais connu chez Vogue, il était le pianiste de Jacques Dutronc. Il avait fait le fameux arrangement d'Antoine, les élucubrations. C'était lui l'arrangeur des élucubrations.
Il est devenu l'arrangeur de vos spectacles avec Chantal Goya.
De mes spectacles, oui, oui. Voilà. Et Chantal l'aimait beaucoup, elle me disait, voilà quelqu'un qui te comprend vraiment très bien.
Voilà, et je suis pas le seul fan, disons, chez les grandes personnes, parce qu'il paraît que Barbara aussi adorait.
Barbara, elle venait à tous les spectacles.
Ah, voilà.
Elle louait un petit car à Précy-sur-Marne, elle amenait tous les enfants de Précy-sur-Marne.
Ah oui.
Oui, et alors comme
Barbara, on l'imagine pas comme
oui,
ça.
Mais oui, mais bien, on a les photos, on peut vous les montrer. Et il y en a deux comme ça. Il y avait Barbara. Alors elle venait dès qu'elle le pouvait à tous les spectacles, et à la fin elle montait sur scène avec les enfants. Et elle disait à Chantal, emmène-moi dans les étoiles avec toi. Je peux partir dans les étoiles avec toi. Et Louis de Funès venait avec ses petits-enfants.
Ah, c'est merveilleux.
Ah, il adorait ce spectacle. Et puis Jean Poiret aussi.
Et Jean Poiret aussi.
Et Jean Poiret, qui pleurait comme une madeleine dans la loge tellement il était ému.
Et ben voilà, moi je suis d'accord. Merci encore pour ça, Jean-Jacques Debout. Encore, tiens, une petite parenthèse quand même, parce que ça parle à tout le monde. Vous avez participé à un certain nombre de films, vous avez écrit des musiques de films. Bon, évidemment, on a passé la semaine dernière la chanson de Johnny, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a aussi des génériques de dessins animés.
J'ai fait les chansons aussi pour le film de Jean-Luc Godard.
Bien
sûr. Masculin, féminin.
Dans lequel jouait Chantal Goya.
Absolument.
Voilà.
Oui, c'est là où elle a démarré au cinéma.
Et puis, alors je ne sais pas comment c'est arrivé, ce célébrissime générique de 1979 qui s'appelle Capitaine Flamme.
Eh bien, c'est le producteur Bruno Huchez qui achetait des mangas.
Qu'on n'appelait pas encore les mangas, peut-être à l'époque.
Et
ici,
puis, il avait acheté donc ce Capitaine Flamme, mais c'était une musique japonaise qui n'était pas du tout pour les oreilles françaises. Il m'a téléphoné un dimanche matin et il m'a dit, lundi, Jean-Jacques, est-ce que tu crois que tu peux rentrer dans un studio pour me faire une chanson pour une série de 59 épisodes qui va s'appeler Capitaine Flamme. Et il me faut la chanson finie, mixée, terminée pour lundi matin 9h. Car la chanson était programmée déjà pour les visiteurs du mercredi sur TF1. Voilà.
Jusqu'ici pour sauver.
Capitaine Flamme, encore une musique de Jean-Jacques Debout avec qui nous passons notre deuxième samedi. On arrive malheureusement bientôt à la fin, mais je ne peux pas ne pas évoquer un autre spectacle musical que vous avez écrit, Jean-Jacques Debout, puisque c'était un petit peu notre fil conducteur aujourd'hui. C'est Paul et Virginie, créé au Théâtre de Paris, je crois en 1992.
Oui.
Voilà, d'après le roman... que les jeunes générations connaissent peut-être plus tellement, mais de Bernardin de Saint-Pierre, je sais pas comment vous étiez tombé là-dessus, mais
oui.
Pourquoi Bernardin de Saint-Pierre?
Mais c'est parce
pourquoi
que j'étais parti, voilà l'histoire, c'est que Johnny m'avait emmené avec lui chanter à La Réunion.
Oui.
Il y avait deux galas à La Réunion et un troisième gala à l'île Maurice.
Oui.
Et quand on est arrivé à l'île Maurice, moi je lui dis, je n'en peux plus, je vais aller me baigner. Je suis allé me baigner dans un endroit... où sur une pierre, il y avait marqué « C'est ici que Bernardin de Saint-Pierre a campé son célèbre roman, Paul et Virginie, et qu'a eu lieu le naufrage, quand il y a le naufrage à la fin,
oui.
et que Paul va essayer d'aller la sauver, et qu'il n'y arrive pas, il y va avec Domingue. Et moi, ça m'a tellement marqué que dans l'avion qui me ramenait le lendemain à Paris avec Johnny, je me suis mis à l'arrière de l'avion, et avec mon petit magnétophone, j'ai écrit une chanson qui s'appelait « Redeviens Virginie ».
Redeviens Virginie, voilà. C'était le point de départ.
Oui, et ça a été comme ça.
Ça a été un gros succès.
Énorme.
Voilà.
Et quand j'ai fait le disque, Johnny m'a dit « Apporte-moi le disque ». Et il est parti voir Monique Lemarcy directement avec sa moto à RTL. Et il lui a amené le disque et elle a aimé et c'est devenu un très gros succès dans tous les hit-parades de l'époque.
Voilà. Et donc, du coup, alors vous avez eu envie d'en faire une comédie musicale.
Voilà.
Hein, avec oui. Régis Santon, je le disais, au Théâtre de Paris, qui a été
Enfin, j'ai écrit le spectacle et Régis Santon a fait la mise en scène voilà. avec moi.
Voilà. Avec
tous
vous.
Oui,
avec
oui,
vous.
Tous les deux, oui.
Et ça a été un bon succès.
Oui, c'est 5 mois. On a joué pendant 5 mois. Et c'est à travers ce spectacle que j'ai découvert Claire Kem, qui chante remarquablement bien dedans, et j'ai retrouvé le disque que j'ai amené.
Voilà, mais nous on va écouter une chanson interprétée par vous, parce que c'est une des chansons phares de...
Ah bah ça a été très important dans ma carrière.
De cette œuvre, Paul et Virginie, c'est Bourlingueur des étoiles. Hein.
Ah bah oui, ouais. c'est quand j'arrive, donc j'incarne Bernardin de Saint-Pierre qui était né au Havre.
Oui, je le sais, hein, un bon havrais.
Où dans un phare, il y a même son musée avec toutes ses affaires. Et il est parti dans l'océan Indien... C'est Louis XV qui l'envoie comme botaniste, parce qu'il était un grand botaniste. Il avait été l'élève de Jean-Jacques Rousseau. Et Louis XV l'envoie pour savoir ce qu'on peut tirer de cette île et y faire pousser. Et puis là-bas, il tombe amoureux de la femme de Pierre Poivre qui a fait le fameux jardin des pamplemousses. Et c'est comme ça que le gouverneur Mahé de la Bourdonnais le fout à la porte et il l'envoie dans l'île d'à côté qui est devenue l'île de la Réunion. Et de tristesse, il écrit ce roman « Paul et Virginie ».
Bourlingueur des étoiles, de l'océan du ciel, de mon humble cabane, brûlée par le soleil. Je contemple les fleurs qui vivent autour de moi, dans la douce chaleur exotique des bois. Bourlingueur des étoiles, je regarde la mer, sous le vent qui s'installe et fait trembler la terre. Et dans cette nature que je viens étudier, les parfums me rassurent d'étrangères beautés. Bourlingueur écrivain, Bernardin de Saint-Pierre, je connais les chemins qu'empruntent les rivières, et l'effroyable poudre qui sert aux canons, le tonnerre et la foudre qui brûlent à l'horizon. Pour cette île de France, j'ai prié près du cap de la bonne espérance. Sous la lune d'argent qui éclaire l'espoir, j'ai maudit l'océan qui devenait si noir. Pour la guerre des étoiles, dans le creux des tempêtes qui déchirent les voiles de ces goélettes, comme une voix qui gronde et qui ne se tait pas, j'étais pris dans la ronde du temps qui s'en va. Viens dans ta prière, l'image d'un clocher, la maison de ta mère, tout ce que tu aimais, Bernardin de Saint-Pierre, Bernardin.
tranquille dans ces jardins-là. Je suis émerveillé devant tant d'harmonie. C'est la nature d'ici qui s'éveille à la vie. Pour la guerre des étoiles, où sont les dieux cachés qui font couler nos larmes, qui nous font nous aimer? Pour la guerre des étoiles, voilà mon univers. Pour la guerre des étoiles, Bernard de Saint.
Jean-Jacques Debout dans sa comédie musicale Bourlingueur des étoiles en 1992.
Oui, c'est là où Bernardin de Saint-Pierre arrive à l'Île-de-France.
Et vous avez eu d'autres projets, hein, Jean-Jacques, de comédie musicale. Où ça ne voit pas toujours le jour, mais il y en aura peut-être encore dans les années à venir.
J'ai adapté Sans famille, voilà. Où on en parle en ce moment pour un théâtre à Paris.
Voilà. Et puis, ces dernières années, Jean-Jacques, eh bien, vous avez aussi... Hugo a allé un peu revisiter les chansons de votre enfance, les chansons d'autrefois, avec deux albums. Le premier, c'était Guinguette.
Ouais. Hein, j'ai aimé parce que c'était les chansons que je chantais à la fin de la guerre, ouais. Parce que je suis né en 40. Ouais. Et puis, on était à Saint-Aignan-sur-Cher, là où il y a le parc de Beauval.
Ouais. Et vous reprenez d'ailleurs par exemple la chanson du maçon qu'on a écoutée la semaine dernière, ouais. Et beaucoup d'autres comme ça.
Oui, je vais même aller la chanter chez Michou pour son anniversaire mardi prochain.
Ah voilà, parce que c'est un copain aussi, Michou, ah, oui, et un voisin à une époque. Enfin.
Oh bah, j'étais à l'inauguration de sa boîte quand il l'a lancée.
Et vous avez écrit signé Michou.
J'allais souvent avec Jacques Brel finir la soirée chez lui.
Ah, parce que Jacques Brel aimait bien aller chez Michou.
Ah oui,
aussi.
Il adorait Michou. Dès qu'il avait fini son cabaret, avec Jacques, on finissait chez Michou.
Ah, c'est drôle.
On se mettait dans le fond, et puis Jacques, il buvait de la bière, parce qu'il était belge. Hein, puis, ouais. Puis il disait, je me souviens, à chaque fois qu'il faisait tomber une bière, il disait à Michou, allez, on trinque ensemble. Et puis il lui disait, allez, fume, c'est du belge, il disait. C'était bien du Brel, ça.
Voilà, les soirées chez Michou avec Jacques Brel. Vous avez également rendu hommage, alors ça c'est plus récent, en 2017, à Jean Gabin.
Oui,
dans un album.
J'ai eu la chance de le connaître.
Oui.
Marlène m'écrivait des lettres pour que j'aille lui porter. Et comme il tournait un film qui s'appelait Rue des Prairies, avec justement Roger Dumas qui jouait dans le film et Marie-Josée Natt, j'avais demandé à Marie-Josée si elle pouvait m'organiser une rencontre avec Jean Gabin. Et alors un jour, il faisait très beau. C'était au studio de La Victorine, oui. Et j'étais parti lui amener une lettre de Marlène.
Était toujours amoureuse de lui.
Moi, je pense qu'elle était toujours restée amoureuse de son histoire, qu'elle avait vécue avec lui pendant la guerre. Et elle adorait Gabin, elle l'aimait par-dessus tout. Mais lui, il voulait plus en entendre parler. Et elle avait marqué à l'intention de Monsieur Gabin. Il a reconnu l'écriture de Marlène et il a dit « Oh, putain de merde, c'est encore la chleu qui me poursuit !» Il attrape la lettre, il en fait une boulette de papier, il jette la boulette dans le cendrier en verre Saint-Zano qui était devant lui, il sort son briquet et il met le feu après la boulette de papier sans lire la lettre. Marlène, évidemment, le lendemain, me demande ce qu'il avait pensé de la lettre, pensant qu'il l'avait lue. Et je lui ai menti, je lui ai dit, mais il l'a mise à l'intérieur de son veston.
Ah, le beau mensonge.
Voilà, un beau mensonge.
Alors, Comme un singe en hiver, c'est dans votre album Gabin, justement.
Oui, parce que j'adorais ce film. Et puis, j'ai connu celui qui l'a écrit, bien entendu. Et puis, j'étais surtout très ami de Jean-Paul Belmondo avant même qu'il fasse du cinéma. Et j'aime tellement Jean-Paul que j'ai voulu lui rendre un hommage à travers cette chanson où je prends le rôle qui tient par rapport à Gabin dans Le singe en hiver.
Comme un singe en hiver, mon amour, j'errais chaque nuit, chaque jour, ne sachant où aller me cacher, n'ayant plus de raison d'exister. Comme un singe en hiver, sans repère, dans un train, je suis parti vers la mer qui m'a conduit dans cette Normandie. J'ai trouvé un ami. Dans le vent, la pluie, vers un hôtel, le
devant la jetée, devant le ciel. Par hasard, j'ai trouvé un asile, sans connaître le temps de mon exil. Je suis entré pour me réchauffer, quand un homme m'a tout de suite guidé. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai compris que nous pourrions parler de ma vie. Comme un singe en hiver, mon amour, je suis venu te chercher un jour. Toi, mon enfant, mon dernier amour, ta maman m'ayant quitté pour toujours. Comme un singe en hiver, j'étais fou, je buvais pour oublier n'importe où. Je faisais tout pour te retrouver, sans jamais désespérer. Par moments, j'ai joué les toréadors, m'imaginant en Espagne dans ce décor. Car je ne pouvais l'oublier sans remords, cette femme qui me conduit vers la mort. J'ai mis en danger ce qu'il me restait de mes forces et de ma vie sans attrait. Et j'ai traversé mes nuits sans sommeil en espérant de revoir le soleil. Comme un singe en hiver, je suis venu te chercher un jour. Toi, mon enfant, mon dernier amour, ta maman m'ayant quitté pour toujours.
Comme un singe en hiver, un extrait de votre dernier album paru, Jean-Jacques Debout chante Jean Gabin. Alors voilà, nous sommes en hiver, mais bien, bien joyeux d'être ensemble.
Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit des chansons sur ces films que j'ai aimés le plus, des chansons qui n'existaient pas, en me servant des titres, évidemment, de ces films.
Et nous, eh bien, au cœur de l'hiver, on vient de passer deux moments très agréables avec vous à évoquer plein d'histoires et vous en avez encore
en tout cas,
beaucoup d'autres à raconter.
Je suis très heureux d'avoir fait cette émission.
On va se quitter avec Charles Trenet,
le grand Charles,
en duo avec vous, Jean-Jacques Debout.
Ouais.
Juste un mot, parce que vous m'avez dit que Charles Trenet avait deux compositeurs favoris,
oui.
C'était Ravel et Gershwin.
Il était fou de Ravel et de George Gershwin. Et quand il a eu 80 ans, ouais. Jean-Pierre Foucault m'a appelé. Et il m'a dit, écoute, je prépare une émission Sacrée Soirée dédiée aux 80 ans de Charles Trenet. Ouais. Toi qui le connais bien, il a tout ce qu'il veut dans la vie. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir d'après toi? Et comme j'avais rencontré à New York le fils de Gershwin, Alan Gershwin,
voilà.
Qui aimait beaucoup Trenet, bizarrement, et qui connaissait son œuvre, et ben j'ai dit, écoutez, le mieux serait de faire venir Alan Gershwin, qui est le fils du compositeur qu'il préfère au monde. Et il viendra lui jouer la mère au piano pendant l'émission, et c'est ce qui s'est passé. Et Charles Trenet a fondu en larmes à la fin, et ça a été une rencontre formidable.
Ça, c'était les 80 ans de Charles Trenet.
Oui, et puis sacrée soirée.
Et puis pour vos 50 ans
oui.
C'est Charles Trenet qui a chanté la mère en duo avec vous.
Voilà.
Vous nous dites juste en un mot, puis on va l'écouter pour
se quitter. J'avais fait répéter l'orchestre, mais son secrétaire, Georges, m'avait dit, je ne suis pas sûr qu'il vienne parce qu'il est fatigué, mais il m'a dit pour Jean-Jacques, on verra, mais j'espère y aller, mais si je suis trop fatigué, je pourrais pas y aller. Et puis, j'ai appris finalement qu'il était arrivé dans la salle, il était même assis à côté de Mireille, qui était venue aussi.
Ouais.
Et puis, je l'ai appelé, et puis il s'est levé. Il a traversé la salle, les gens se demandaient, ils ne l'avaient pas reconnu tout de suite. Et du reste, on entend pendant la chanson qu'à un moment, les gens l'applaudissent parce que au moment où l'éclairage l'éclaire, c'est là où on reconnaît le grand Charles Trenet.
Et celui...
Et il m'a fait le plus beau cadeau du monde, car il a toujours refusé dans sa carrière de chanter la mer avec qui que ce soit. C'est la première fois qu'il a chanté en duo avec quelqu'un.
Évidemment, mais la boucle est bouclée puisqu'il vous avait encouragé dès vos débuts. Et voilà comment nous allons nous quitter avec cette version de la mer. En attendant de vous revoir bientôt ici, j'espère, Jean-Jacques Debout.
Je l'espère aussi parce que vous m'avez fait passer vraiment des moments formidables.
Je crois qu'il y a une petite surprise pour toi. Hein? Et pour moi, et pour tous nos amis qui sont là ce soir et qui nous témoignent autant de chaleur et autant d'amitié. La mer, on va danser le long. À des reflets d'argent, la mer, que des reflets chantants sous la pluie. Au ciel d'été, on fond ses blancs tons. Avec les anges si purs, la mer, perdre l'azur, infini. Voyez, près des étangs, ces grands ennuyés. Voyez, ces oiseaux blancs. Et ces maisons mouillées,
ces maisons mouillées,
la mer les a bercées le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs tons. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie.
Voyez,
près des étangs, ces gros
oiseaux, voyez,
ces oiseaux blancs.
Les retrouvailles entre Jean-Jacques Debout et Charles Trenet qui, comme on l'a vu, avait été le parrain de ses débuts. Vous retrouvez d'ailleurs cet enregistrement dans le disque intitulé « Bourlingueur des étoiles » chez Sony Music. Et puis, vous pouvez également écouter donc ce disque qui vient de paraître chez Marianne Melody, avec beaucoup de titres écrits ou composé, ou les deux d'ailleurs, par Jean-Jacques Debout, interprété notamment par Barbara, Dalida, Thierry Leluron, Annie Cordy, Michou et beaucoup d'autres.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et nous allons nous quitter, après ces deux belles émissions en compagnie de Jean-Jacques Debout, sur un rythme viennois, le rythme de la valse, et celle de Franz Lehár plus précisément, qui s'appelle Waldsirenenwalzer, sous la direction de John Elliott Gardiner.
Thank you.
Et vous avez reconnu bien sûr les plus célèbres thèmes de La Veuve Joyeuse, arrangés par le compositeur lui-même Franz Lehár dans cette Waldsirenen Walzer interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de John Elliott Gardiner. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Olivier Dupré et Marie Le Peintre, réalisation Christine Amado. Et en attendant de vous retrouver, eh bien je vous souhaite à tous un très bon week-end sur France Musique. Vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.